Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur les problèmes trouvés dans le monde en y apportant un regard biblique.
La pauvreté et la prospérité. Voici le thème qu'Yann et son invité Jean-Luc vont à présent aborder.
Depuis quelques émissions, nous réfléchissons sur ce que la Bible dit au sujet de la prospérité et la pauvreté. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce thème avec notre invité Jean-Luc pour la dernière fois. Je voudrais conclure cette série en lui demandant « Que réserve l'avenir aux pauvres et aux riches ?» Qu'en dit la Bible ? Aujourd'hui, un nombre considérable de gens vivent dans la pauvreté. Pensez-vous que nous aurons du mal à changer cet état de choses ?
Oui, nous ne pouvons pas échapper à cette triste réalité. Tant que le péché demeurera enraciné dans le cœur des hommes, tous nous serons confrontés à l'injustice, la corruption, l'exploitation, la violence, aux guerres et à bien d'autres épreuves. Tous ces maux sont le fruit du péché, de la méchanceté et de l'égoïsme qui résident en nous et qui ont inévitablement pour conséquence d'être la cause de la pauvreté. Tant que nous demeurerons sous la malédiction prononcée par Dieu suite à la désobéissance d'Adam et d'Ève, il y aura des famines, des épidémies, des catastrophes naturelles, responsables, elles aussi, de la pauvreté. Or, nous ne pouvons, il faut l'avouer, enrayer ces maux de la planète.
S'il ne se trouve pas d'espoir pour que ces choses changent, le risque que nous nous décourageons devant cette situation ne demeure-t-il pas présent ?
Je n'ai pas dit que nous ne pouvons rien changer. Même s'il nous est impossible d'enrayer entièrement la pauvreté, nous ne devons cesser de venir en aide aux démunis et de les secourir. Si nous pouvons au moins aider une personne à s'en sortir, ce que nous ferons rendra gloire à Dieu. Si nous pouvons en aider plus, ce sera mieux encore. Le plus important est que nous honorions Dieu en donnant chacun selon nos possibilités.
Pouvez-vous nous rappeler comment nous pouvons venir en aide aux démunis ?
Ceux qui bénéficient d'une certaine influence parmi les grands de ce monde peuvent chercher à promouvoir la justice sociale et économique et à lutter contre la corruption. Et s'ils se heurtent au projet d'hommes égoïstes, ils ont pour exemple les prophètes qui, avant eux, persévérèrent. Ils demeurent fidèles à Dieu et tinrent ferme quant aux tâches que le Seigneur leur avait confiées, et cela malgré tous les dangers encourus.
Mais la plupart de nos auditeurs peuvent se sentir totalement impuissants face aux grandes décisions prises par certains hommes politiques. Peuvent-ils réellement contribuer à la lutte contre l'injustice et la pauvreté ?
Il est vrai que la plupart d'entre nous ne pouvons guère exercer d'influence sur les grandes décisions politiques. Toutefois, il est de notre devoir d'accomplir la volonté de notre Seigneur. Et il nous demande, entre autres, d'aimer notre prochain. Dans la partie du monde où l'Éternel nous a placés, nous devons écouter sa parole, accomplir le bien, porter secours aux démunis, même avec le peu dont nous disposons. L'amour de Jésus envers les hommes est l'exemple que nous devons suivre.
Et pouvez-vous nous rappeler les qualités de l'amour de Christ ?
Jésus s'intéresse aux hommes. Il a à cœur leurs besoins. Tous, il les accueille. Même ceux tout particulièrement rejetés par la société, ceux qui sont démunis ou marginalisés pour diverses raisons. Y a-t-il des personnes méprisées ou marginalisées dans votre village ou dans votre quartier ? Serait-il possible de devenir leur ami ou de leur faire du bien ? Jésus est également généreux. Au temps des disciples, il a partagé ce qu'il avait avec les autres. Il prouvait son amour non seulement par ses paroles, mais aussi par ses actes. Il a secouru nombre d'hommes et nombre de femmes de façon appropriée en fonction de leur situation. L'accueil, la solidarité, la générosité, le partage sont autant de qualités qui prouvent notre amour envers notre prochain. Or, nous devons rechercher ces qualités avec l'aide de l'Esprit et les reproduire dans nos vies. Nous disposons peut-être de peu de moyens. Toutefois, Jésus nous exhorte à réfléchir sur ce que nous pouvons faire avec ce qu'il nous confie. Il faut laisser courir son imagination et agir, sans jamais oublier que le moindre geste en faveur des pauvres est précieux aux yeux de Jésus.
La pauvreté demeure un problème bien réel dans notre monde, et vous nous exhortez à aimer notre prochain. Mais que réserve l'avenir?
Selon la Bible, l'histoire de l'humanité ne se poursuivra pas ainsi indéfiniment. Car dans notre monde frappé par les maux, les malheurs et la mort, Dieu interviendra et il y rétablira la justice selon ses promesses. Les écrits de l'Ancien Testament parlent du « jour de l'Éternel » et ceux du Nouveau Testament du « retour du Seigneur Jésus ». Il s'agit dans ces deux cas d'un seul événement.
Et que se passera-t-il ce jour-là?
Le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire. Alors, il ressuscitera tous les hommes, toutes les femmes, car il rassemblera ceux qui étaient morts, comme les vivants auprès de lui, afin de les juger. Ceux qui se seront réconciliés avec Dieu par la foi en Christ hériteront la vie éternelle. Par contre, ceux qui auront refusé l'Évangile seront jugés et condamnés selon leurs œuvres.
Mais quel est le rapport avec notre sujet de discussion sur la pauvreté?
En ce jour, l'Éternel créera pour les siens une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et la pauvreté, comme bien d'autres malheurs, ne sera plus.
Et qu'est-ce qui vous permet de dire cela?
Il est difficile d'imaginer ce que sera la vie éternelle, mais la Bible nous en donne un avant-goût, car elle utilise certaines images pour nous la décrire. La Bible nous assure ainsi que dans la vie éternelle, il n'y aura plus de larmes. Par conséquent, plus personne ne pourra y être pauvre. De plus, lorsque la Bible nous parle de l'éternité passée dans la présence de Dieu, elle se sert souvent d'images dépeignant l'abondance. La Bible parle ainsi d'un festin ou d'un banquet royal. Il s'agit là d'une façon de nous assurer qu'auprès de Dieu, nous trouverons de quoi nous satisfaire, de quoi nous rassasier largement. De même, la vie éternelle peut être comparée à une cité où les remparts et les bâtiments sont faits de pierres précieuses. Cette image luxuriante nous prouve l'abondance que connaîtront tous ceux qui habiteront à jamais avec le Seigneur. Enfin, Dieu déclare que le Seigneur Jésus lui-même règnera au milieu de ses enfants et qu'il établira dans son royaume une justice parfaite. On ne connaîtra donc plus jamais la corruption, ni l'exploitation, ni même le mauvais partage des ressources et par conséquent la pauvreté.
C'est une belle espérance que vous nous présentez là.
Effectivement. Et dans un monde où la pauvreté engendre le désespoir, il est important de garder cette espérance en vue. La vie peut être parfois extrêmement difficile, mais c'est cette espérance d'un avenir meilleur qui nous aide à tout endurer et à persévérer dans nos efforts à secourir les pauvres en aimant notre prochain.
Ce que vient de déclarer Jean-Luc est important. Le fait de mettre son espérance dans le retour du Seigneur Jésus ne doit pas nous conduire à nous retirer du monde ou à l'attendre passivement sans rien faire. Au contraire, cette espérance doit renouveler nos forces et nous pousser à œuvrer pour un monde meilleur.
Cette série de discussions sur la pauvreté et la prospérité se termine aujourd'hui et nous remercions Jean-Luc pour sa participation.
Poursuivons à présent nos méditations bibliques avec les paroles de Jésus connues sous le nom de béatitude. D'abord, Hélène va lire Matthieu chapitre 5, verset 6, et ensuite, notre invité Charles commentera ce verset.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés.
La dernière fois, nous avons parlé de ce que avoir faim et soif de Dieu signifie sur le plan spirituel. Quant à aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la nature de la justice à laquelle nous devons tous aspirer. Lorsque Jésus assure « heureux ceux qui pleurent », il parle de ceux qui souffrent à cause du mal enraciné dans leur propre cœur. Car ce mal les éloigne de la justice de Dieu. Il les sépare de lui, les privant de sa présence et de sa bénédiction. Or Dieu, qui est juste, ne peut pas accorder sa bénédiction aux injustes. Une question se pose alors. Comment pouvons-nous, nous qui sommes injustes, devenir à nouveau justes, et ainsi jouir d'une relation avec Dieu? Par nos propres efforts, nous ne pouvons rien. Impuissants, il ne nous reste plus qu'à implorer Dieu de venir à notre secours, d'être notre sauveur, d'établir sa justice dans nos cœurs. Mais soyez rassurés, car Jésus affirme « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Car tout comme ceux qui, après une rude journée de travail, ont faim et se trouvent rassasiés par un bon repas, ceux qui ont soif de la justice de Dieu seront comblés. Mais comment donc celui qui est injuste peut-il devenir juste devant Dieu? Citons quelques auteurs bibliques. Le prophète Isaïe déclare « J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice. » En écrivant à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul affirme « Celui qui était innocent de tout péché, c'est-à-dire Jésus, Dieu l'a condamné à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Une autre fois, l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome « Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Ainsi, selon la Bible, Dieu nous accorde sa justice comme un cadeau et non comme une récompense. La Bible compare nos péchés à un vêtement sale et en lambeaux. Elle poursuit cette image en affirmant que Jésus, par sa mort sur la croix, ôte de nous ses habits souillés pour nous en revêtir de beaux, empreints de sa propre innocence et de sa propre justice. Ainsi, vêtus, nous pouvons nous présenter devant Dieu, qui est juste, et demeurer auprès de lui. Mais comment recevoir un tel cadeau? Comment donc notre soif de justice peut-elle être rassasiée? Il suffit de croire à ces choses, il suffit de placer sa foi en Jésus-Christ et en son œuvre sur la croix.
Comment un mendiant pourrait-il se promener vêtu d'habits resplendissants? Seulement si une personne riche les lui a donnés. De la même manière, le pardon de Dieu est un cadeau qui efface notre péché et qui nous permet de paraître justes dans la présence de Dieu. Avez-vous accepté ce cadeau qui fait de nous des enfants de Dieu et non plus des condamnés à mort?
En attendant notre prochaine rencontre, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.